Vous vous rendez compte que voici quelques années, pour pouvoir parler à Philippe Bouvard, moi j'avais été obligé de l'inviter dans une émission de télévision, alors que vous aujourd'hui, il suffit de composer le 3210 pour pouvoir lui parler. Vous vous souvenez Philippe, c'était pour la sortie de votre livre Sans voiture et sans regret.
Là, dedans, hein, c'est pas jeune tout ça. Alors que vous, vous l'êtes resté. Non mais j'aimerais bien, alors que vous me téléphoniez un jour pour me poser une question, par exemple, sur un sujet que vous avez peut-être pas complètement résolu, la vie de couple, enfin je dis n'importe quoi.
Eh bien, pari tenu. Bonne émission, Philippe.
Merci, Vincent.
On parle de tout sur RTL dans Allo Bouvard, samedi et dimanche, 11h30, 12h30. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Eh bien oui, on va prendre les mêmes et ne pas recommencer. On va parler d'autre chose et Dieu sait si aujourd'hui la liste des sujets qui se confond avec les motifs d'inquiétude ou d'angoisse est longue. Alors allons-y.
Avec vous Philippe, Étienne, 58 ans, producteur de fruits à Verdun.
Bonjour Étienne.
Bonjour Philippe.
Alors, quelle est votre inquiétude? Car je suppose que, bon, vous êtes inquiet comme la plupart des Français, mais je remarque que les sujets d'inquiétude varient d'un âge à l'autre, d'une profession à l'autre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors moi, je produis des fruits dans la Meuse, dans les côtes de Meuse, à quelques kilomètres de Verdun. Et je note que ces dernières semaines, dans l'actualité, on a souvent évoqué les difficultés des producteurs de fruits et de légumes, à l'exemple de ce qui a pu se passer en Bretagne récemment. Et je voulais avoir votre sentiment sur cette crise des fruits et légumes, et pas spécialement, mais également sur la difficulté aujourd'hui d'être agriculteur. Avoir votre sentiment sur cette situation.
D'abord, je dois avouer que mes souvenirs d'enfance me poussent à considérer avec beaucoup de bienveillance et de respect ceux qui travaillent la terre, parce qu'ils n'ont pas choisi la solution de facilité, et qu'aujourd'hui, on a rendu, mais on va essayer de déterminer les responsables, on a rendu leur survie très problématique. Simplement, quand je vois dans la presse que les fruits et les légumes ne cessent de baisser, leur prix ne cesse de baisser, je me dis que ça doit faire les affaires du consommateur. Eh bien non.
Oui.
Non, parce que il y a une statistique que j'ai vue aussi et qui dit que les consommateurs n'ont pas profité complètement de la baisse des prix qui est venue encore augmenter, par exemple, la marge de la grande distribution.
Oui, ça c'est possible. Mais la grande distribution peut être ciblée, par exemple, quand elle fait des prix d'appel pour des produits, c'est très souvent sur les fruits et légumes, et c'est souvent des prix de vente aux consommateurs qui ne couvrent même pas les frais qu'aurait le produit pour l'ensemble des phases de sa préparation, en particulier la rémunération du producteur. Mais moi, ce que je note, et vous venez de le dire, c'est que la production française diminue fortement. En 10 ans, on a perdu 20% de la production française. Et ça, c'est révélateur que la difficulté de la filière fruits et légumes, elle est vraiment majeure. Parallèlement, en même temps, en Allemagne, les productions des différents fruits et légumes augmentent.
Pourquoi est-ce que notre situation est si angoissante?
Pourquoi elle est si angoissante?
Ça tient à l'agriculture française, ça tient à l'encadrement des lois, ça tient aux gens qui nous gouvernent.
Ça tient en partie au système fiscal et social. C'est souvent d'actualité depuis les dernières élections présidentielles et même avant. Ça tient peut-être à une organisation des producteurs, mais je crois que c'est pas l'élément déterminant. Et puis ça tient à une dynamique que, par exemple, les Allemands mettent systématiquement en avant et qu'en France, on a tendance à considérer que la production, le travail, le métier d'agriculteur, c'est peut-être pas déterminant pour l'avenir. On n'en fait plus une priorité comme ça pouvait l'être sans doute il y a quelques décennies.
Bah, vous savez, pour avoir fait souvent des rencontres avec des paysans ou même avoir bavardé au téléphone avec eux, quand il s'agit de jeunes agriculteurs, d'abord le premier problème, c'est de trouver une femme qui accepte de les aider dans les travaux de la ferme. Et ça, c'est pas facile et ça explique de nombreux retours à la ville. Est-ce que vous trouvez normal, vous qui êtes du bâtiment, qu'un kilo de poire qui est vendu par le producteur 17 centimes soit revendu au consommateur jusqu'à 3,50 €?
Ah non, là c'est pas du tout normal. C'est évident. Moi, j'ai la chance d'être dans une région où on produit pas énormément de fruits et donc on peut travailler en circuit relativement court, y compris avec la grande distribution. Mais quand on est dans des grandes régions de production, où le fruit va être mis dans les mains de coopératives ou de négociants, de grossistes, qui vont les mettre sur le marché plusieurs mois plus tard à des centaines ou voire à des milliers de kilomètres, la rémunération du producteur n'a plus rien à voir avec le prix de vente et le producteur ne peut pas influer sur le prix de vente au consommateur.
Est-ce que la campagne 5 fruits et légumes par jour a amélioré vos affaires ?
Moi, je dis que c'est réellement positif. Et je le vois quand je sers des clients consommateurs en direct. Les enfants qui ne mangeaient pas de fruits il y a 25 ans, aujourd'hui, mangent très facilement des fruits. Là, il y a vraiment un impact. Il y a une génération qui a complètement zappé les fruits, génération des gens qui ont de 25 à 50 ans aujourd'hui quasiment. Et aujourd'hui, tous les jeunes sont prêts à consommer des fruits. Ça, il y avait vraiment eu un effet positif. Moi, je note cet aspect positif.
Et est-ce que l'Europe porte une part de responsabilité dans la désastreuse situation des agriculteurs français, alors qu'elle leur permet aussi, cette Europe, de faire pousser des subventions sur certains champs.
Oui. Mais là on parlait depuis quelques minutes des producteurs de fruits et légumes. Et jusqu'à maintenant, les producteurs de légumes et de fruits émargent très peu au budget européen. Il n'y a pas les aides PAC classiquement connues en agriculture. Il y a des aides aux organisations économiques, des programmes opérationnels, mais pas les aides à l'hectare dont bénéficient les autres systèmes d'exploitation.
Et dites donc, Étienne, la pomme de terre, la bonne vieille pomme de terre, alors oui. Elle a perdu près de la moitié de sa valeur.
Elle a perdu de la moitié de sa valeur. La production cette année, les surfaces sont trop importantes et donc les prix sont très très bas. Et le consommateur pourra bénéficier de pommes de terre à des prix très bas, mais le producteur ne va pas gagner sa vie. Probablement que dans l'année qui vient, on va de nouveau avoir de nombreuses exploitations agricoles en difficulté.
L'autre soir, après les manifestations de Morlaix, on a fait parler des agriculteurs qui ont évoqué les problèmes qui sont les vôtres, mais qui aussi ont dit qu'ils souffraient, mais de façon plus honorable et plus réelle que M. Thomas Thévenoud, de la phobie administrative. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps derrière leur bureau à remplir des formulaires que sur leur tracteur dans le pré.
Bien sûr. Vous savez, quand un agriculteur, il est producteur, il est technicien, parce que ça demande une sacrée compétence technique, il est RH, les ressources humaines, il s'occupe de la gestion du personnel, il fait les déclarations, il fait le secrétariat, il fait la facturation. En général, sur les exploitations, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas de comptable. Donc l'agriculteur, il fait toutes ses opérations. Et vous imaginez la complexité et l'importance du travail à réaliser. Et l'exemple même sur l'emploi, pour un salarié qu'on va embaucher ne serait-ce que 2 jours, on va avoir une déclaration de préalable à l'embauche, on va avoir des fiches de prévention des risques à leur donner, à préparer pour eux, on va avoir un contrat de travail, on va avoir une fiche de paye, et ça, que ça soit pour 2 jours ou pour un salarié permanent. Quand moi j'ai démarré il y a 30 ans, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup moins lourd, il y avait beaucoup moins de responsabilités.
Si vous seriez à l'âge que vous aviez il y a 30 ans, est-ce que vous choisiriez le même métier ?
Eh bien, je dis pas non, parce que moi je vis une passion. J'ai vécu passionnément, et comme beaucoup d'agriculteurs vivent passionnément ces métiers-là, et les sacrifices qu'on peut faire quand on travaille l'équivalent de 2 temps plein, 70 heures par semaine, c'est des sacrifices. C'est ce qui nous permet de tenir souvent. Mais heureusement, le métier est splendide. Heureusement qu'il y a ça. Et on espère simplement que dans les semaines, les mois, les années à venir, les décisions seront prises en France et en Europe, mais en particulier en France, pour redonner de la valeur au travail et redonner l'envie à des jeunes derrière nous de continuer ce type de production.
Dites donc, les producteurs de légumes et de fruits souffrent, mais les éleveurs ne sont pas logés à meilleure enseigne. Hein.
Actuellement, là-dessus, aucun problème. Les difficultés sont pour tout le monde actuellement. Il suffit de regarder les panels des cours, que ce soit de la viande ou des céréales, tout baisse actuellement.
Sauf le vin.
Sauf le vin, sauf le vin. Le vin est un produit un peu différent parce que c'est un produit qui se conserve longtemps, oui, et qui s'améliore et dont la qualité s'améliore souvent avec la conservation. Donc, alors que les denrées agricoles sont pas destinées à être conservées sur la durée, dans le temps, elles sont destinées à être consommées le plus rapidement possible.
Si le prix du vin augmente, c'est aussi parce que les deux dernières années ont été assez catastrophiques sur le plan de la récolte. Hein.
Tout à fait, les récoltes ont été faibles et donc... Mais cette année va être une excellente année au niveau des millésimes sur les vins, et on peut espérer qu'avec des vins de qualité, les Français, en particulier, puis tous les consommateurs étrangers, trouveront dans les vins français vraiment des produits à se faire plaisir.
Étienne, dernière question, plus intime peut-être. Est-ce que l'enthousiasme, enfin la passion que vous conservez pour votre métier, vient de la proximité avec la nature ?
Ah, ça c'est évident ça. Quand j'ai planté des vergers, j'embellis le paysage. Je veux pas dire qu'un champ de céréales c'est pas beau, mais planter des arbres, les voir pousser, les façonner, les tailler, les voir produire des fruits, les récolter comme je suis en ce moment dans mon chantier de récolte, c'est vraiment passionnant et on est vraiment très proche de la nature. Et on essaie de la respecter le plus possible et de tenir en compte de cette durabilité dont la nature a vraiment besoin.
Merci Étienne et bon courage.
Merci Philippe, c'est très aimable.
Au revoir.
Au revoir.
Allô, Bouvard sur RTL. Allô, Bouvard sur RTL.
Sur la principale chaîne de télévision de l'État de l'Alaska, la présentatrice a ainsi annoncé sa démission à l'issue du journal de 20 heures. Fait chier, je me casse. Une idée pour Claire Chazal. Après avoir offert un couvre-chef mexicain au pape qu'il venait d'interviewer, un animateur italien a revendu pour plus de 100 000 euros la calotte blanche que le Saint-Père venait momentanément d'abandonner.
Énormément d'appels au 3210, le standard de Allô Bouvard. Philippe, nous accueillons Étienne, 22 ans, étudiant en droit dans la ville rose, Toulouse.
Bonjour Étienne.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Alors, ça marche les études ?
Ah, c'est souvent un petit peu rébarbatif, mais néanmoins très utile.
Ah, rébarbatif, vous avez choisi le droit, on vous a pas obligé quand même.
Ah non, mais c'est un choix qui est plus guidé par la raison que par la passion.
Ouais, oui. Mais qui va vous mener à la robe d'avocat ?
Oh non, pas aussi loin, je pense pas.
Ah non, non. Bon, bah profitons-en pour parler un petit peu, si vous vous exprimez pas dans un prétoire. Au moins, aujourd'hui, vous allez avoir un peu plus de public que devant une enceinte de justice. Qu'est-ce qui vous mobilise ?
Eh bien, je voulais recueillir votre avis sur le fait de savoir si les nouvelles technologies, et je pense notamment aux tablettes et aux smartphones, aurait tendance à nous rendre moins intelligents à terme. C'est-à-dire que, à force de nous faciliter la vie en nous planifiant les choses, est-ce qu'elle nous rendrait moins intelligents ?
Protester serait nier l'évidence en ce qui me concerne, car plus j'avance en âge, et moins je me sens intelligent. Hein. Ça, c'est très net. Et attendez, je me situe dans un contexte général, parce que on perd un point par décennie d'intelligence. Par exemple, je crois que en 1900, il y a déjà un moment, hein, en 1975, on était à 113, on est passé à 94 aujourd'hui. Et alors, pour moi, j'ai le souvenir d'une expérience qui m'a donné à réfléchir et qui m'a conduit vers l'humilité, ce qui n'était pas ma qualité dominante au départ. Je fais, en tant que journaliste au Figaro, je fais une enquête sur la Mensa. Vous avez déjà entendu parler de la Mensa ?
Non, pas du tout.
Alors, c'est une association assez discrète, mais très bien organisée, de gens qui sont très contents de pouvoir se prévaloir d'un QI très important. Un QI, d'ailleurs, qui ne se traduit pas par une réussite sociale évidente, hein, pas du tout. Ils ont quelquefois des situations modestes dans la société, mais ils sont très intelligents. Et vous savez comment on mesure l'intelligence ? Ça, vous l'avez peut-être vu dans quelques sessions d'orientation professionnelle, non ?
C'est souvent le critère du quotient intellectuel, puisque la mode est de tout quantifier de nos jours.
Ce sont souvent des petits jeux, en apparence, hein, des puzzles, des cubes, quelquefois des épreuves qui ressemblent un peu au sudoku, hein, et qui permettent de mesurer une intelligence. Car je vous rappelle que la France, qui passe pour être une langue très riche, n'a qu'un mot pour évoquer des structures intellectuelles nombreuses et différentes. Hein. Vous savez votre QI, vous ?
Non, aucune idée. En fait, la plupart des tests de QI sont payants. Et je trouve que ce n'est pas vraiment un bon investissement.
Si c'est payant, ça prouve que les organisateurs ont un fort QI.
Exact.
Je fais donc cette retraite pour en finir avec mon cas personnel, mais qui m'a ouvert les yeux. Je fais donc un reportage sur les gens de la Mensa, qui sont très aimables, qui parlent très bien, qui ont des idées sur tout. Et puis je me dis, comme je suis un jeune journaliste, pas très modeste, je formule le désir d'être admis dans l'association. Et je passe les petits examens avec les petits cubes, avec le puzzle, avec des opérations apparemment simples, mais pas pour moi. Et puis, au bout de 8 jours, le président vient avec moi d'un air embarrassé. Il dit, écoutez, je suis vraiment navré, mais on ne peut pas vous admettre. Pourquoi ? Oh, ben parce que, bon, alors là, il évoque un QI qui, comme disait Jean-Yann, est très proche de celui de la moule marinière. Et donc, je suis reparti gros gens comme devant, mais avec une certaine admiration durable à l'égard de ces gens qui sont plus intelligents que les autres. Alors, bon, il y a Einstein, hein, qui passait pour avoir un fort QI.
On disait que c'était autour de 160, je crois, non ?
Alors, 160 Einstein, mais enfin bon, on ne sait pas exactement, parce que vous savez qu'on avait voulu analyser son cerveau, après sa mort quand même, et on s'était aperçu qu'on l'avait perdu, et je crois qu'on l'a repêché dans un caniveau. Enfin, ça a été une histoire douloureuse.
Mais on s'est aperçu qu'il n'était pas plus... que le volume de son cerveau n'était pas plus important que la moyenne,
non,
en fait.
Non, il n'était pas plus important. Bien qu'aujourd'hui, on accorde une présomption de QI plus important aux gens qui ont une grosse tête. Pas la grosse tête, hein. Une grosse tête. Une grosse tête. Et là, alors, c'est tout à fait anecdotique, mais j'ai vu passer une dépêche il y a 3 jours. Alors, c'était une étude, elles valent ce qu'elles valent, hein, et toujours en provenance d'une université américaine pas très connue, qui établissait que les femmes qui avaient un fessier important donnaient naissance à des enfants plus intelligents. C'est-à-dire qu'il y aurait autant de bases qu'elles, mais pas tout à fait les mêmes.
C'est assez surprenant comme information, quand même.
La suite d'Allo Bouvard, c'est tout de suite après la pub.
Jusqu'à 12h30, Allo Bouvard sur RTL.
Vous savez qu'il y a des stars qui ont des QI très très importants. Hein.
Ah oui, autour de 120 peut-être, des choses comme ça.
Oh là là, attendez, une actrice, bon, qui était surtout connue pour ses formes généreuses, avait un cerveau qui lui avait d'ailleurs permis de rafler de nombreux diplômes qu'au début de sa carrière, elle cachait soigneusement. Jeanne Mansfield, vous vous souvenez de Jeanne Mansfield ?
Hello.
Oui, je crois qu'on l'avait surnommé le buste, 149 de QI, c'est-à-dire plus que son tour de poitrine.
Ça devait être aussi le cas de Sophia Loren, peut-être.
Oui, et puis alors, bon, on cite aussi Gasparov, le champion d'échecs.
Ah oui.
C'est un peu normal, hein. Il est quand même à 190, le bougre, hein.
Ah oui, mais ça doit être handicapant, quand même, d'être à de tels niveaux, pour s'adapter.
Non, c'est pas handicapant, dès lors que vous choisissez une spécialité comme les échecs, qui permet d'utiliser cette intelligence. En revanche, W. Bush, 91, vous voyez.
Oui, dans la moyenne, en fait.
Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ? Madonna, 140, Madonna.
Ah oui.
Bill Clinton, 137. Imaginez qu'il rencontre Madonna et qu'ils passent une soirée ensemble. On aurait des conversations édifiantes. Hein. Hillary Clinton, un peu plus encore que son mari, 144.
Ah oui. Ça commence à être de bons chiffres, hein. C'est très au-dessus de la moyenne.
Andy Warhol, qui pourtant est un artiste de référence, lui, il culminait à 85.
Ah oui. Ouais.
Brad Pitt, Brad Pitt, 110, bon, c'est pas énorme. Britney Spears, alors là, on descend, 100. Bill Gates, ah bah Bill Gates, 160, hein, oui. Comme Einstein. Hein.
Ah oui.
George Clooney, il est à 123, mais là, c'est l'influence du café. Hein.
Ça, c'est la capsule, ça.
C'est quand même un facteur important quand on fait des études. Et je m'étonne que vous n'ayez pas cherché à connaître votre QI, même si ça coûtait un peu d'argent.
Mais je ne fais pas vraiment confiance à ces tests, parce que je pense que selon si on est en forme ou si on ne l'est pas, ça peut changer beaucoup les chiffres. C'est-à-dire que si vous passez les tests à un moment où vous êtes un petit peu fatigué ou que vous n'êtes pas au mieux de vos capacités, peut-être que ça peut fausser les chiffres.
On a dit, mais on a fait litière de cette affirmation qui choquait tout le monde, on a dit que le QI des femmes était inférieur de 5 points à celui des hommes.
Non, ça, c'est pas possible, Philippe.
Non, c'est pas possible.
Non,
non,
des histoires, ça.
Non, sinon... Il y aurait beaucoup plus d'hommes qui refuseraient de se marier. Il y a aussi alors les différentes gradations dans l'échelle des QI. Vous avez les déshérités sur ce plan-là, moins de 80. Et là, j'ai un exemple. Mohamed Ali, vous vous souvenez, le boxeur ?
Oui, oui.
78. 78, c'est pas beaucoup, mais enfin, quand il faut frapper l'adversaire en face, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est une constatation qui est confirmée par le fait que les enfants qui se battent beaucoup à l'école ont un QI en baisse.
Et donc, ce serait des violences ou des chocs qui pourraient faire baisser le score, finalement.
Et puis alors, il y a William James, ça vous dit rien, ça ?
Non.
C'est un enfant prodige américain. Lui, il entre dans la catégorie supérieure, on ne dit pas des génies, des surdoués. Il avait 1 an, il lisait déjà le journal. À 6 ans, il parlait 6 langues étrangères.
Wow.
Il est entré à Harvard à 16 ans.
Oui.
Et il en est ressorti très rapidement parce qu'il avait tout compris la première journée. Quand il est mort, il connaissait 20 langues étrangères, ce qui d'ailleurs ne l'a pas empêché de mourir. Voilà. Mais c'est pour montrer quand même qu'il y a des extrêmes, que la France n'est pas très mal lotie, mais nous figurons seulement au 10e rang des pays européens en matière de QI quand même, hein.
Oui, par rapport au rang de la France habituellement, c'est assez éloigné quand même.
Oh, peut-être parce que l'on ne fait pas appel à certaines intelligences, comme l'intelligence artistique, l'intelligence littéraire. Et là, on doit être meilleur quand même que les Allemands ou les Suisses, non ?
Oui, voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne ressort pas dans le score purement mathématique de l'addition de points.
Enfin, sachez quand même que la moyenne mondiale tourne autour de 88 et que nous, on est à 94, ce qui est quand même pas mal. Hein.
Oui, c'est beaucoup plus que, enfin, un petit peu plus que la moyenne.
Oui.
C'est déjà bien.
Qu'est-ce qu'il y a encore il y a le fait que l'alimentation influerait sur l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui rendraient plus intelligents. On ne parle plus comme dans ma jeunesse, quand on essayait de me faire manger du poisson ou de boire de l'huile de foie de morue, du rôle bénéfique du phosphore. Hein. Ça, on a oublié. Et de même, bon...
On peut s'en réjouir, d'ailleurs.
L'épinard qui donnait du fer, on laisse à Popeye. Mais il y a certaines pratiques aussi. Et puis, il y a le fait qu'un certain environnement et certaines fréquentations de gens qui ont un fort QI vous aident à améliorer le vôtre. J'espère, mon cher Étienne, que vous soignez vos fréquentations en dehors des cours.
Ah oui, il faut bien s'entourer pour toujours apprendre de nouvelles choses, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que vous allez faire à l'arrivée quand vous aurez... vous n'allez pas faire un doctorat, non ?
Non, non.
Non, vous arrêterez quoi, à la licence
Je pense arrêter à la licence, oui.
Oui.
Parce que là, je suis en 3e année, donc je pense qu'au bout de cette année, je vais m'arrêter.
Et vous ferez tout à fait autre chose, comme beaucoup d'étudiants en droit ?
C'est très possible, oui.
Et vous ne regretterez pas alors d'avoir consacré quelques années qui ne vous ont pas spécialement diverti à ce genre d'études ?
Mis à part certaines matières du droit civil qui étaient très intéressantes autour du patrimoine, non.
Non, et puis il y a de si jolies étudiantes en droit. Hein.
Ah oui, particulièrement à Toulouse.
Merci Étienne.
Merci beaucoup.
Et bonne chance pour votre avenir.
Merci.
Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Allô Bouvard sur RTL.
Et maintenant, notre visiteur du dimanche.
Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour, vous en êtes un autre.
Eh bien oui, pour cette semaine prochaine, voilà les prévisions astrologiques concernant Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Les hautes fonctions que vous occupez aujourd'hui, Monsieur Cazeneuve, étaient depuis longtemps inscrites dans votre carte du ciel. Votre maman, qui était antillaise et obsédée par la propreté, faisait constamment le ménage à la maison en répétant « Il faut laisser la case neuve ». C'était une excellente femme d'intérieur. Travail. Cette semaine encore, n'ayez pas peur de montrer à votre entourage que vous n'avez pas peur. Votre ascendant musaraigne et votre trigone en sourisseau vous protègent. Même si vous avez fait une bêtise ces jours derniers, ne craignez pas d'en faire porter la responsabilité aux grévistes d'Air France. C'est à cause d'eux que c'est le foutoir dans les aéroports et que la police ne peut pas faire son travail. En amour, votre monde intérieur sera comblé par une lune bienveillante qui protège les relations en couple. Demandez à votre conjointe de vous concocter votre dessert préféré, une bonne tarte. C'est la tradition Place Beauvau de distribuer des tartes, même à ceux qui ne sont pas prévenus. Vous les aimez aux abricots, bien fourrés à l'intérieur ? Faites-le lui comprendre en douceur pendant qu'elle époussette votre bureau au plumeau. Elle ne saura résister à votre charme et succombera au sourire ravageur qui est le vôtre, à condition que vous retiriez votre cravate qui vous fait un nœud trop petit et que, pendant les repas, vous enleviez vos lunettes qui vous font de gros yeux. Santé. Mangez des légumes qui facilitent le transit, ce qui peut être fort utile pour un ministre du gouvernement Valls. Mais faites quand même attention aux pruneaux. Mettez un gilet pare-balles. Et puisque vous n'avez pas peur, méfiez-vous d'une seule chose, le ridicule. Voilà mon cher Philippe, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine mon cher Philippe.
Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL.